Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir à bord de cette nouvelle émission des Échos de ma commune et de mon canton. Nous sommes, vous le savez, en période électorale, raison pour laquelle je me suis interdit d'inviter un élu. Mais vous ne perdrez pas au change, soyez-en sûrs, car aujourd'hui je reçois pour le troisième mois consécutif Ingrid Riocreux, universitaire, spécialiste entre autres de la rhétorique et auteur d'un ouvrage remarquable et remarqué, La langue des médias, un ouvrage bien accueilli par les médias nationaux, même si il a dû faire grincer des dents ici ou là, non ?
Oui, finalement, pas trop. J'ai eu un article mitigé dans l'Obs, et puis j'ai été censurée par un journal de la presse locale, donc je ne donnerai pas le titre.
Non, mais pas ici, je veux dire.
Hein, voilà, c'est un journal régional d'une autre région, et le journaliste avait fait l'interview et tout, et puis ça paraissait pas, et j'ai fini par prendre contact avec lui, et il m'a dit, disons le mot, nous avons été censurés. Et donc sa hiérarchie lui avait dit que c'était pas le moment de sortir un livre comme ça.
C'est jamais le moment, voilà, hein, de dénoncer les travers de la presse.
Voilà. Donc il était révulsé, mais bon, voilà, c'était triste parce que lui personnellement, il avait du courage finalement en tant que journaliste de venir interviewer quelqu'un qui dit du mal des médias. Hein, c'est un peu comme ça qu'on peut résumer mon travail. Mais voilà, ses collègues n'étaient pas sur la même longueur d'onde et sa hiérarchie a refusé de faire paraître l'article.
En revanche, je pense que cet ouvrage est devenu un peu un vade-mecum pour un certain nombre de personnes. Là, on va parler par exemple de Philippe Muret aujourd'hui. Beaucoup de gens vous ont dit « Ah, mais c'est du Philippe Muret ce que vous avez écrit ».
Oui, c'est d'autant plus amusant qu'en fait, je n'avais pas lu une ligne de Philippe Muret avant d'écrire ce livre. Donc ça fait partie des auteurs auxquels on m'a rattaché finalement a posteriori. Donc j'ai découvert a posteriori ma parenté spirituelle avec Philippe Muret, mais aussi donc avec d'autres auteurs. Je ne finis pas finalement de me faire refiler des bibliographies de tout un tas de gens avec qui je suis apparentée sans le savoir. Et en même temps, c'est très encourageant parce que ça veut dire que je ne suis pas la seule à dire ce que je dis.
Ouais. Je précise aussi qu'on peut vous lire par ailleurs sur causeur.fr, où vous postez souvent des articles. C'est votre livre qui vous a ouvert les portes de causeur.fr ?
Oui, plus précisément, c'est l'article de l'Obs auquel j'ai répondu. Et donc, Causeur a proposé de publier ma réponse à l'Obs. Et l'article a eu un succès énorme. Et donc, suite à ça, Causeur m'a dit, on vous propose d'ouvrir un blog pour faire une critique du discours médiatique, finalement, de manière assez régulière.
Mesurez votre chance, auditeurs et auditrices de Radio Rancienne. Nous avons quelqu'un qui compte aujourd'hui sur la scène intellectuelle française. Alors, lors de notre dernier rendez-vous, on avait évoqué la pensée unique, évoqué son histoire, ses méfaits. Aujourd'hui, place à l'empire du bien. Cette expression, je l'ai empruntée au regretté Philippe Muret, donc penseur, pamphlétaire, romancier, auteur du livre éponyme « L'empire du bien » publié aux Belles Lettres. En vous lisant, Ingrid, donc, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce livre, « L'empire du bien », car aux journalistes contemporains, dites-vous, il importe moins finalement aujourd'hui de démêler le vrai du faux que le bien du mal, non ?
Oui, donc c'est ce que j'avais appelé dans mon livre le renoncement à l'éthique du vrai au profit de l'éthique du bien. On voit bien que les journalistes finalement ont une grille de lecture du monde qui n'est pas guidée par la recherche de la vérité, mais par le sentiment d'avoir une responsabilité morale vis-à-vis des gens qui vont recevoir leur propre discours. Donc ça veut dire que le discours de commentaire du réel va s'accompagner de ce qu'ils appellent des décryptages et qui sont en fait des espèces de manières d'orienter notre réception du monde avec tout un tas de petits mots qui ne sont jamais anodins et qui vont nous dire, tout en nous disant des choses sur le réel, on va nous dire ce que nous devons en penser. Et c'est très difficile finalement de démêler dans ce discours ce qui relève du pur commentaire et ce qui relève de l'appréciation du jugement moral, précisément parce que ça se glisse dans la connotation des mots, par exemple.
Ouais, quels sont les mots pratiqués, prisés par l'empire du bien ?
Eh bien, par exemple, puisqu'on est en période électorale, moi je suis frappée, et j'ai vu que Natacha Polony l'était aussi, par l'importance du couple ouverture-fermeture. Voilà, ça devient une grille de lecture des choses et on a l'impression que c'est tout à fait objectif. Hein. Tel candidat va être plutôt pour une France ouverte et l'autre va être pour une France fermée. Et on a l'impression que ça correspond à quelque chose de vrai. Et c'est pas faux. Seulement, en même temps qu'on dit cela, eh bien, il y a une connotation qui va avec. Ce qui est ouvert, c'est ce qui est bien, alors que quand c'est fermé, c'est rabougri, etc. Alors qu'on pourrait choisir autre chose. Par exemple, on pourrait parler de protection dans le cas de la fermeture. Et là, ça devient un mot positif, vous voyez. Donc, il y aurait toujours une manière, moi c'est ça que je dis, il y a toujours une manière de dire autrement les choses, donc pourquoi a-t-on choisi de dire les choses comme ça? Oui. Même si on l'a fait inconsciemment. C'est parce qu'on pensait que c'était la meilleure manière de le dire. Et ça peut être porteur, évidemment, d'un jugement moral, parce qu'on trouve que c'est la meilleure manière, la manière la plus juste, dans les deux sens du terme, oui, de le dire.
Cet empire du bien, quelles sont ses valeurs, celles qu'il défend?
Alors, c'est des valeurs très, très positives. Hein. Comme dit Philippe Muret, finalement, il est pour la paix contre la guerre, il est pour la tolérance, il est contre le racisme, etc.
C'est Yannick Noah, quoi.
Oui, voilà. Donc, c'est Miss France. et c'est nous tous, finalement. On est tous d'accord avec ça. Donc, c'est ça qui est très difficile, c'est que c'est absolument incontestable. Oui. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces valeurs, qui sont incontestablement bonnes, enfin, c'est vraiment des lapalissades, quoi, elles vont servir, finalement, de vecteur à des choses qui sont beaucoup plus pernicieuses. C'est-à-dire que, par exemple, l'antiracisme, qui est tout à fait quelque chose de louable, qui est vraiment quelque chose de très bon, va servir finalement à défendre le communautarisme, qui est quelque chose de beaucoup plus problématique, qui signifie justement qu'on va scinder la société, qu'on va créer des groupes, potentiellement des groupes opposés, etc. Ça peut être un ferment de guerre civile et tout. C'est beaucoup plus contestable, voilà. Mais c'est derrière l'antiracisme que va se glisser la défense du communautarisme. Et du point de vue des médias, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une dimension involontaire. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés, quand ils ont en face d'eux un groupe qui se dit antiraciste, qu'ils ne peuvent en dire que du bien, voilà, que ce groupe est objectivement antiraciste. Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé lors de l'écriture du livre, c'est que les journalistes donnent l'impression de penser, et je pense que honnêtement c'est le cas, que le mot égale la chose. Donc quand vous avez les ABCD de l'égalité, je ne sais pas si vous vous en souvenez, des espèces de fiches pour expliquer aux enfants que c'est pas parce qu'on est avec des attributs masculins qu'on est une fille, enfin voilà, la dissociation entre le genre et le sexe biologique, enfin ces choses-là, c'était assez problématique, disons, et dans une certaine mesure contestable. Mais pour les journalistes, comme ça s'appelait ABCD de l'égalité,
forcément, ben, c'était bien.
Le but, c'était d'instaurer l'égalité entre les garçons et les filles. Alors que ce qui se cachait derrière, c'était le culte de l'indifférenciation sexuelle, ce qui est quand même autre chose, ce qui représente un courant idéologique assez particulier et puis problématique quand même.
Ouais. Et ce courant idéologique, on nie qu'il existe finalement au sein des médias. C'est-à-dire qu'on peut même pas poser la question de son existence finalement.
Oui. C'est ça, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va nous dire qu'il n'existe pas, et puis quand ça s'est bien imposé dans le paysage, on va nous dire c'est là et c'est bien. Et c'est ça qu'il faut être capable d'anticiper, c'est-à-dire que pendant qu'on nous dit que telle chose n'existe pas, en fait, on prépare le moment où on nous dira c'est là et c'est bien. C'est ce qui s'est passé avec le PACS puis le mariage gay, c'est ce qui s'est passé avec la GPA, c'est en train de se passer avec la GPA, c'est ce qui s'est passé avec les ABCD de l'égalité, etc. On a un processus qui se répète à chaque fois. Et encore une fois, moi je suis vraiment pas pour la diabolisation des journalistes, je pense qu'ils sont très honnêtes dans la phase où ils pensent défendre ce qui sera une position officielle et finale. Pour eux, le mariage pour tous, c'est vraiment le mariage pour tous. Ils ne se rendent pas compte que, objectivement, cela exclut des couples et que un jour, il faudra bien prendre en compte ces couples-là et dire eux aussi ils existent et eux aussi ils ont droit d'exister, etc.
Et là, vous pensez.
Ben voilà, moi je dis toujours, je peux très bien épouser toutes les femmes du monde, mais je peux pas épouser ma sœur. Oui. Voilà. Et pourtant, peut-être que ma sœur et moi, on s'aime d'un amour tendre et qu'on est toutes les deux consentantes. Bon, mais pour l'instant, si je dis ça dans un grand média, c'est un dérapage.
Oui. Vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, je l'ai lu dans un livre de Jean-Claude Guibaud, un auteur tout à fait sérieux, il est arrivé qu'aux États-Unis, dans certains États-Unis, on puisse épouser son animal, vous saviez ?
Son animal domestique,
mais... son chien, etc. Ouais. Ça existe aux États-Unis.
En Amérique du Sud, il y a un monsieur qui a épousé un crocodile aussi. C'est vrai. Hein.
Ygrine, on écoute un peu de musique et puis on se retrouve pour décliner un peu ce bien qu'on veut sous tous ses aspects politiques, sociétales, économiques. Vous êtes toujours à bord de l'émission Écho de ma commune et de mon canton. Je reçois aujourd'hui pour la troisième fois consécutive et avec un grand plaisir Ingrid Rieucreux, qui est universitaire, qui est blogueuse, qu'on peut découvrir ses articles sur causeur.fr et qui est l'auteur d'un ouvrage, maintenant on peut le dire, un ouvrage de référence, La langue des médias, un livre qui dénonce la peut-être pas la bien-pensance, mais une sorte de pensée unique à l'œuvre et de discours unique à l'œuvre dans les médias, quels qu'ils soient. D'ailleurs, ça transcende, j'y reviens, ça transcende l'appartenance politique, hein, parce que ce discours, on va l'entendre à gauche comme à droite.
Oui, on peut même dire que c'est un discours obligé auquel il faut se plier, c'est-à-dire que quelle que soit l'expression, quelle que soit l'idée que l'on veut avancer, il y a un certain nombre de choses qu'il faut dire avant. Ça aussi, Philippe Murel a bien remarqué, c'est-à-dire que avant d'avancer une pensée un tout petit peu subtile, il faut avoir répété qu'on n'a rien contre telle personne, qu'on ne veut pas viser telle personne, etc. Et ça, c'est un discours qu'on entend aussi bien à gauche qu'à droite. Ça veut dire que finalement, le domaine de la pensée et de l'expression est totalement sclérosé et verrouillé par cette pensée obligée, puisque avant même d'exprimer une opinion un peu personnelle, un peu nouvelle, il faut d'abord se plier à la récitation d'un dogme préconçu.
Ça veut dire qu'on admet finalement, la suspicion, c'est le règne de la suspicion, on l'admet, on s'y plie finalement.
Oui.
On considère qu'on peut soi-même être suspect, par exemple, si on ne prend pas ses précautions.
C'est dans cette mesure qu'on peut dire qu'on a affaire à quelque chose d'assez totalitaire, puisqu'effectivement, chacun se sait suspect, potentiellement, d'avoir de mauvaises pensées.
C'est orwellien, non ?
Tout à fait. Oui. C'est tout à fait ça. Et c'est assez frappant. Et surtout, moi, ce que je trouve frappant et très dommage, c'est que les journalistes acceptent cette espèce de rôle de tribunal. Enfin, quand on est journaliste, normalement, c'est pas pour être un juge. Justement, on doit offrir un espace d'expression libre et ouverte. Ce n'est pas du tout le cas. Les plateaux télévision sont justement, les studios de radio aussi en général, sont des endroits où il faut vraiment faire allégeance au discours obligé, en utiliser les mots, se plier à ses présupposés avant de pouvoir exprimer quelques pensées que ce soit. Et c'est pour ça aussi qu'on a l'impression finalement que le paysage politique est aussi uniforme. Parce que quelles que soient les opinions des gens, ils sont obligés de les exprimer d'une telle manière qu'on a l'impression qu'elles ne sont que la répétition permanente de quelque chose qui a déjà été dit. Qu'il est obligé de penser, finalement.
Qu'il est obligé de penser, oui. Alors, vous avez cité Philippe Murel parce que le thème de cette troisième émission, c'est l'Empire du Bien. C'était le titre d'un de ses livres. L'Empire du Bien, on se dit, c'est chouette si le bien triomphait. Mais non, ce bien, il est effrayant, finalement. Il ne veut pas que du bien, je le pense. On va étudier un peu, essayer de parler de ce bien qu'on nous veut sous tous ses aspects, peut-être politique. Sur le plan politique, on va dire qu'en règle générale, puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, il privilégie l'ouverture à la fermeture, il va être plutôt pour l'Europe que pour la nation, par exemple.
Oui, on peut même aller plus loin. Il est pour le monde. C'est-à-dire que l'empire du bien, c'est l'empire de la globalisation. Et là encore, j'en viens à quelque chose qu'on avait déjà mentionné finalement ensemble la dernière fois, qui est la croyance dans le progrès. On a l'impression qu'aujourd'hui, le progrès, c'est d'être citoyen du monde. C'est d'être chez soi partout et en même temps de n'appartenir à aucun lieu, de n'être pas enraciné. Mais finalement, dans une certaine mesure, c'est un énorme retour en arrière. Moi, je croyais que la sédentarisation, c'était un progrès par rapport à l'époque où nous étions des nomades. Et non, finalement, on voit que ce qui est considéré comme le progrès, c'est un énorme bond en arrière. Alors pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, ne disons pas que c'est un progrès, ne disons pas que nous allons de l'avant. Disons au contraire que nous faisons un bond salutaire en arrière de quelques millions d'années.
Oui. Il est possible aussi que le nomadisme, et notamment le nomadisme professionnel de nos contemporains, arrange finalement des multinationales, par exemple. Ça fragilise un être humain qui est toujours en mouvement, c'est un être humain qui n'a pas non plus de racines, on en fait un peu ce qu'on veut, non ? Vous n'avez pas ce sentiment-là ?
Oui, alors là j'ai envie de dire qu'on entre dans un domaine qui est un peu problématique, mais il est certain que, sans entrer dans les histoires de qui finance les médias, etc., il est certain qu'il y a une alliance objective une liaison directe entre le discours dominant et effectivement ce que vous appelez les grands groupes, les multinationales, etc., le grand patronat, le capital en général. Ce n'est pas un hasard, voilà, si les groupes de presse sont possédés par des gens qui possèdent par ailleurs un certain nombre d'autres domaines, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que finalement la presse est peut-être à son corps défendant, mais mise au service d'une idéologie qui arrange bien les puissants de ce monde. On va dire ça de manière très pudique, de cette manière-là, quoi. Mais ça, on le constate jusque dans le discours des médias. Il est évident que nous imposer cette manière de penser qui est, semble-t-il, très positive, mais qui est finalement est aussi associée à la perte de l'enracinement, à la perte du chez-soi, c'est aussi être au service du grand capital, hein, qui, comme vous dites, joue avec les gens et a besoin qu'ils n'appartiennent à rien d'autre qu'à l'entreprise.
Oui. Finalement, ça peut arranger. On a l'impression qu'en fait, cet empire du bien, il est ce qu'on appelle libéral-libertaire. C'est une catégorie qui, oui. Je crois, ça doit être peut-être Elisabeth Lévy qu'on a parlé, qui, parmi les premières, en a parlé. Ouais. Mais on a l'impression que ça arrange tout le monde, finalement. Les libéraux, mais aussi les libertaires. On est libéral sur le plan des mœurs, on est aussi libéral sur le plan économique. Tout ça se rejoint parfaitement, finalement.
Mais oui, voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on peut dire que le clivage droite-gauche n'a plus tellement de sens. C'est que finalement, le discours dominant, qui est celui des médias, mais qui est aussi celui de la classe politique, et comme vous dites, un discours libéral-libertaire, c'est-à-dire finalement l'abolition de toutes les limites. Or, il me semblait moi aussi que la civilisation, c'était par définition l'établissement des limites, de la différence entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour la communauté, donc aussi l'établissement d'une limite de la communauté, etc. Donc finalement, cette perte totale de référence est un abandon de l'homme à lui-même, qui est en même temps une manière de le ramener à sa solitude totale et comment dire, de le rendre sans défense vis-à-vis, là encore, de puissances qui ont intérêt à ce que l'individu se retrouve seul face à lui-même.
Oui. Je ne voulais pas parler de politique, mais quand même, de toute façon, ça y est, on est après le second tour de l'élection présidentielle. Comment vous avez vécu cette période électorale? Est-ce que vous l'avez vu à l'œuvre, là encore, cet empire du bien?
Oui, alors... comment dire, il est. J'imagine que j'ai pas le droit de donner des noms de candidats. Non, mais disons que ce qui m'a frappé dans cette campagne, c'est et c'est quelque chose que dont Philippe Muret parle aussi dans son livre sur l'empire du bien, c'est la fonction récréative des médias. Ce qui a dominé finalement, c'est les affaires, mais les affaires traitées sous l'angle extrêmement à la fois psychanalytique, très personnel, tout ce qui est vedettisation du favori. Je ne parle de personne, bien sûr. Voilà, toute cette la dramatisation, voilà. Les débats, on n'en retient rien que des chiffres qui défilent, donc le temps est compté, les gens n'ont pas le temps de dire grand-chose. Hyper technicisation des débats, donc on aligne des chiffres, on fait des calculs, etc.
Il y a les graphiques, les fameux graphiques.
Voilà, oui, et il n'y a pas du tout d'échange d'idées ou quoi que ce soit. Finalement, il y a une espèce de tension énorme pendant les débats, mais on n'en retient rien. Et la tension tient en grande partie au fait qu'il y a toujours le coup près du temps de parole qui plane au-dessus de chaque intervention. Donc les interactions ne peuvent pas avoir de suite non plus. Voilà, donc finalement, voilà, la fonction récréative, l'hyper technicisation des discours, au final, quelque chose d'assez affligeant, de pseudo-américanisant dans ce que ça peut avoir de pire.
De pire, oui. Et puis on avait le sentiment d'assister parfois à des manifestations sportives. C'était présenté par les journalistes de cette manière, notamment d'ailleurs le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. 5 minutes avant, on voyait David Pujadas dire « Bon, comment sont les concurrents? Comment sont nos champions ?» Quoi. On était
oui,
à 5 minutes du championnat du monde.
Dans la même émission, il disait « Ils sont sur le ring. » Voilà, le challenger, etc. Enfin, effectivement... mais ça, je crois que c'était Jean-Paul Brighelli qui avait fait un article là-dessus. Il avait relevé tous les mots du vocabulaire sportif qui apparaissent, mais en permanence, dans le journalisme politique. Et là, on voit bien, justement, que d'une certaine manière, on ne prend plus au sérieux les enjeux. Ce qui compte, c'est la dramatisation artificielle, la scénarisation permanente, donc la création d'une tension qui peut être sur la base de n'importe quoi, y compris de petites inimitiés personnelles entre les gens, qui ne nous intéressent pas du tout. Moi, je suis frappée par le nombre d'émissions politiques où on va passer un quart d'heure à dire « Oui, mais est-ce que vous voulez qu'un tel soit le porte-parole de votre candidat ?» L'autre répond « Mais ça, moi, je m'en moque, c'est pas à moi de le décider. »« Oui, mais quand même, c'est votre candidat, est-ce que vous voudriez qu'un tel soit son porte-parole ?» etc. Le but étant de faire avouer que non, je déteste un tel, etc. Et ça peut passer, on peut passer 10 minutes à poser des questions comme ça, qui sont uniquement pour dévoiler des querelles de personnes qui n'intéressent vraiment, pour le coup, personne.
Oui. Est-ce qu'on peut pas, là on parlait de Philippe Meurin, on pourrait parler de Guy Debord et de la Société du spectacle. On est vraiment au cœur de la Société du spectacle.
Exactement. Bah, d'ailleurs, Philippe Murek cite Guy Debord et la Société du spectacle. Et moi, je trouve que c'est absolument visionnaire. Et en lisant Philippe Murek, j'avais vraiment l'impression qu'il avait écrit ce livre pendant la campagne présidentielle.
Ouais. J'ai trouvé une très jolie phrase aussi dans ce livre. Le bien est la réponse anticipée à toutes les questions qu'on ne se pose plus. C'est tout à fait éclairant, c'est-à-dire des questions qu'on n'ose plus se poser, ce qu'on disait tout à l'heure, parce que le règne de la suspicion est un peu partout, des questions qu'on n'a pas le droit de se poser. Et on a parfois l'impression qu'au sein même des familles ou des groupes d'amis, il y a des questions qu'on n'ose plus trop aborder, finalement.
Essayez de dire quelque chose contre l'avortement dans un dîner de famille, même si vous êtes pour, hein, c'est pas grave, juste pour rire, vous pouvez essayer, ça va avoir un effet immédiat, voilà, parce que vous êtes contre le droit des femmes, voilà. Mais c'est quand même intéressant de voir que, par exemple, peut-être que le droit humain peut être mis en concurrence avec ce droit des femmes, que peut-être il y aurait une réflexion à mener là-dessus. Pareil, sur le mariage pour tous, moi j'ai été frappée par le fait que pour défendre un droit, on avait nié la liberté humaine. Et on a entendu dire qu'il n'avait pas choisi d'être homosexuel, comme s'il s'agissait d'une espèce de prescription hormonale ou, voire chromosomique, qu'ils étaient nés comme ça. Donc on a nié la liberté humaine au nom de la revendication d'un droit communautaire. C'est quand même, voilà, sans entrer dans des grands débats, sans s'énerver, c'est quand même intéressant de noter ce genre de choses.
Ouais. On écoute un peu de musique et on se retrouve pour la troisième partie de notre émission. Troisième et dernière partie de cette émission, je reçois aujourd'hui Ingrid Rieu-Creux, universitaire, auteure du fameux livre « La langue des médias, la fabrique du consentement ». J'ai beaucoup aimé aussi le sous-titre « Comment fabrique-t-on une sorte de consensus national autour de certaines questions qui fâchent ?» C'est ce que vous démontrez dans ce livre remarquable. Alors là, aujourd'hui, on parle de « L'Empire du bien », qui est aussi le livre de Philippe Murek. C'est ce bien qu'on nous veut perpétuellement, et peut-être féroce, et s'y opposer ne serait-ce que du bout des lèvres, c'est souvent prendre le risque de s'attirer les foudres des bien-pensants. Je voulais prendre un exemple dans l'actualité. J'ai pas voulu le prendre dans l'actualité politique. Donc je voudrais qu'on reparle. On en avait parlé lors d'une émission précédente, mais assez rapidement, des dérives du Bondy Blog et de sa figure emblématique, Mehdi Meklat. Alors, le Bondy Blog, j'ouvre Wikipédia et je lis. Le Bondy Blog est un média en ligne créé le 11 novembre 2005. Il a pour vocation de raconter la France de la diversité ethnique et d'être la voix des quartiers sensibles dans les débats qui animent la société française. Hébergé à partir du 1er octobre 2007 par le site du quotidien gratuit 20 minutes, puis par Yahoo, puis par Libération, il publie le travail d'une trentaine de collaborateurs. La plupart sont des jeunes, dont les parents sont issus de l'immigration, en provenance de l'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, et résidant en Seine-Saint-Denis. Alors, jusque-là, on se dit formidable. Donner la voix aux sans-voix, peut-être... Que d'accord, sauf que rapidement, le Bondy Blog va publier des papiers sujets à caution où transparaissent antisémitisme, racisme anti-blanc, homophobie, apologie des violences urbaines, jusqu'au fameux tweet incendiaire de Mehdi Meklat, le protégé de France Inter et de Mediapart. Eh bien, Tous ceux qui ont osé dénoncer les dérives du Bondy Bloc ont été cloués au pilori par une partie de la presse française. Comment vous avez vécu ce moment étrange, vraiment très étrange ?
Eh bien, je pense que, justement, ça a dévoilé le problème dont on parlait en tout début d'émission tout à l'heure, le fait que les journalistes confondent le mot et la chose. C'est-à-dire que pour eux, effectivement, un média qui donne la parole à la banlieue, un média qui se dit antiraciste, ouvert, etc., ne peut pas, voilà, par définition, ne peut pas se rendre coupable de tous les crimes que vous avez énumérés, des appels à la haine, etc. C'était inenvisageable pour eux. Parce que justement, l'étiquette est censée correspondre absolument à la chose. Et c'est extrêmement grave. Mais on peut aussi faire l'analogie avec ce qui s'est passé avec le collectif contre l'islamophobie en France, qui est quand même finalement le porte-voix des musulmans les plus radicaux qui défend le burkini, etc. Seulement, ça s'appelle collectif contre l'islamophobie en France.
Forcément, on ne peut pas les contre.
Et voilà. Et donc, on se rend compte que les journalistes prennent énormément de pincettes avant d'oser leur opposer la moindre résistance, ne serait-ce que dans des questions d'interview. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en terrain favorable, ces gens-là, parce que leur dénomination est censée correspondre absolument au bien, avec un grand B, pour lequel ils se battent.
Oui. Alors, une des manifestations les plus troublantes de ce désir de bien est la surveillance permanente sous laquelle on met son adversaire présumé. On va éplucher des tweets, ses SMS, ses moindres interventions télévisées à la recherche de ce qu'on qualifiera de dérapage. Mmh. Toujours.
Oui. Alors effectivement, il y a la recherche du dérapage, il y a cette espèce d'obsession très actuelle et très américaine, là aussi, de la transparence, qui est abondamment dénoncée par Elisabeth Lévy. On y a eu droit pendant la campagne présidentielle, hein, avec les affaires Fillon, qui ont été une espèce de lynchage permanent. Et surtout, j'ai envie de dire, si on veut jouer à ça, eh bien, logeons tout le monde à la même enseigne. Moi, ce qui m'a frappée, c'est que dans le cas des affaires Fillon, bon, déjà, on n'avait pas le droit, hein, de s'interroger sur l'origine des fuites, ni sur le caractère extrêmement opportun de toutes ces révélations. C'était considéré comme du complotisme par les journalistes qui auraient dû être les premiers à se poser ces questions-là quand même. Sinon, ça veut dire qu'ils acceptent d'être instrumentalisés potentiellement. Et puis surtout, je veux dire, François Fillon, il était accusé de détournement de fonds publics pour des affaires qui datent d'il y a plus de 30 ans. Emmanuel Macron était accusé de la même chose pour le financement de la campagne présidentielle. On n'en a presque pas parlé. Et pourtant, là, en l'occurrence, c'était pas les médias russes qui l'accusaient de ça. C'était deux journalistes français qui avaient écrit un livre, Dans l'enfer de Bercy, où il était accusé donc de détournement de fonds publics pour financer sa campagne. Ouais. Vous remarquez le silence assourdissant sur cette affaire.
Ouais. Pour finir, je voudrais citer un petit paragraphe, parce qu'il faut qu'on se quitte. Un tout petit paragraphe, et pour vous donner à nos auditeurs l'envie peut-être de lire ou de relire L'Empire du Bien et La Langue des Médias, bien sûr, que vous avez signé. Voilà cette petite phrase. Le bien comme la fête sont chatouilleux, susceptibles, irritables. Ils s'alimentent au sentiment de la persécution. D'avoir réduit au mutisme toute opposition ne leur suffit pas. Il faut tout de même qu'ils en agitent sans cesse l'épouvantail. Dans le silence général de la lâcheté, de l'abrutissement ou de l'acquiescement, il faut toujours se fortifier d'attaques fantômes, de périls fantoches et de simulacres d'adversaires. Lisez L'Empire du Bien de Philippe Muret et La Langue des Médias de Ingrid Riocru. Ingrid, un grand merci pour avoir fait ensemble ces trois émissions que vous pourrez évidemment retrouver en podcast sur radiorentiel.fr. Un grand merci à Simon en régie. À bientôt.